VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Élection au Mali, la victoire accordant un second mandat au président malien Ibrahim Boubacar Keïta ne reflète pas la vérité des urnes et sera contestée par tous les moyens démocratiques, y compris devant la justice. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le directeur de campagne du candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé. Thiébilé Dramé a affirmé au quartier général de l'opposition à Bamako que son camp allait déposer des recours devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler des résultats frauduleux dans certaines régions du pays. Selon les résultats officiels annoncés aujourd'hui par le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf, Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli 67,17% des voix lors du second tour de la présidentielle le 12 août, contre 32,83% à l'opposant Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances. Des résultats qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Lors de la présidentielle de 2013, le président Ibrahim Boubacar Keïta l'avait emporté avec 77,6% des suffrages sur Soumaïla Cissé, qui avait alors reconnu sa défaite avant même l'annonce des résultats officiels. En Afrique de l'Ouest toujours, l'une des priorités du Sénégal doit être la tenue de procès équitables et l'arrêt immédiat de l'intimidation et du harcèlement des leaders de l'opposition. C'est ce qu'a souligné Amnesty International dans un rapport intitulé « Des paroles non suivies d'actes », mettant en exergue le cas du maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné à l'approche de l'élection présidentielle de 2019. Charles Caricide, envoyé spécial de VOA Afrique à Dakar, fait le point avec Sedi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal.
La situation des droits humains au Sénégal est très très loin d'être bonne. Le Sénégal a été pendant longtemps la nation phare en Afrique en matière de démocratie et de respect des droits humains. Mais nous avons observé beaucoup de recul depuis 2009 avec l'ancien président Blaise Compaoré. Nous avions estimé que Macky Sall, qui a été élu à la suite d'émeutes et de violations graves des droits humains, allait vraiment opérer une rupture dans le bon sens. Malheureusement, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a repris les mêmes pratiques qui ont marqué la fin du règne de Blaise Compaoré, avec notamment des interdictions de manifestations. Par rapport à la violence policière, il n'y a eu aucun changement. Bien au contraire, les décès dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie ont continue à se multiplier, avec une impunité presque totale.
Il y a un autre point que vous soulignez, c'est la question de procès inévitable. Alors, c'est quoi le problème et pouvez-vous nous donner des exemples concrets?
L'exemple le plus concret, c'est le cas de Khalifa Sall. Sa détention a été émaillée de bout en bout d'irrégularité. C'est d'abord de l'interroger sans lui permettre d'avoir accès à un avocat, et cela a été relevé par la Cour de la justice de la CEDEAO. Cela était suffisant pour annuler la procédure. Parce que le Code de procédure pénale prévoit expressément que lorsque vous êtes arrêté, dès votre interpellation, on doit vous informer que vous avez droit à un avocat. On ne parle même pas de garde à vue, mais dès l'interpellation. Or, Khalifa Sall, pendant toute sa garde à vue, il a été interrogé sans qu'il ait accès à un avocat. Donc c'est une raison suffisante pour que la procédure soit annulée et qu'il retrouve la liberté. L'autre irrégularité, évidemment, que la CEDEAO a relevé aussi, c'est son immunité parlementaire. La constitution du pays est extrêmement claire. Tout député élu bénéficie d'une immunité parlementaire. Et nous, à l'époque, nous avions demandé à l'État de le libérer et ensuite de procéder à la levée de son immunité. On n'a pas accédé à cette demande.
Mais en même temps, on peut vous dire qu'il y a eu une enquête, qu'il y a eu un procès et que finalement, on l'a trouvé coupable. Et de venir dire qu'il n'a pas bénéficié
d'un procès. Vous savez, ce discours qui est tenu par des ministres ou responsables montre simplement le cynisme des gens qui dirigent le Sénégal aujourd'hui. Ce sont des personnes extrêmement cyniques. Vous savez, Khalifa Sall, il a été le premier homme politique au Sénégal à faire une déclaration de patrimoine. Dès qu'il a été élu à la tête de la mairie de Dakar, donc dans cette affaire, il n'y a absolument rien du tout. La seule chose qui existe, c'est la volonté d'écarter un adversaire politique. Parce que si la motivation était de bien gérer les deniers de la mairie de Dakar, c'était de réformer les lois qui régissent le fonctionnement de cette caisse d'avance et d'empêcher qu'il utilise la caisse pour se faire une clientèle politique. Mais c'était manifestement pas suffisant, il fallait le mettre en prison.
Sedi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. Épidémie de choléra au Niger sur 1351 cas recensés. Il y a 22 morts dans la région de Maradi, proche du Nigeria, selon le tout dernier bilan annoncé par le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey, au Tchad. Le point avec Morgan Guyoyek.
Un précédent bilan onusien faisait état le 7 août de 13 décès sur 993 cas. Plus de la moitié des malades sont des enfants âgés de 1 à 14 ans. Depuis la déclaration de l'épidémie début juillet, la riposte est engagée par les services locaux avec l'appui de l'OMS, l'UNICEF, MSF France et la coopération italienne. Le ministre nigérien de la Santé, Ilyasu Mainasara, qui s'était rendu sur place, a expliqué que l'épicentre de l'épidémie se situait dans la préfecture de Madarounfa, proche du Nigeria. Il avait assuré que la situation était sous contrôle. L'épidémie a contaminé au moins 8 quartiers de Maradi, la capitale économique du pays, avec 95 malades recensés contre 49 au 7 août, relève l'OCHA. Des experts redoutent une flambée de cette maladie très contagieuse en raison d'inondations liées à de fortes pluies dans la zone infectée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection en République démocratique du Congo, la RDC, qui n'a jamais connu de transition pacifique du pouvoir, organisera seule, sans soutien international, les élections présidentielles, législatives et provinciales prévues le 23 décembre 2018 après deux reports. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi Néhémie Mwilania Wilonja, le directeur de cabinet du président Joseph Kabila, lors d'une conférence de presse. C'est en principe le 19 septembre que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, doit publier la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 23 décembre. En attendant, les prétendants au fauteuil présidentiel multiplient les promesses. Abdourahmane Dia.
L'opposant Félix Tshisekedi a affirmé hier qu'il voulait quasiment multiplier par 10 le revenu moyen des habitants en République démocratique du Congo, qui est présentement de $458 par an. Un autre candidat, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Bemba, a promis un plan de développement de 80 milliards sur 5 ans. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a chiffré son programme à 114 ou 120 milliards de dollars pour l'éducation, la santé et les logements sociaux. L'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, avait promis de mobiliser 100 milliards de dollars et de créer 3,5 millions d'emplois en lançant sa plateforme électorale en mars. Mais il a depuis été empêché de rentrer en RDC pour déposer sa candidature. Ces quatre opposants ou leurs proches indiquent qu'ils poursuivent les concertations en vue de désigner un candidat commun d'ici à la publication définitive de la liste des candidats le mois prochain. Selon la Banque mondiale, la RDC est encore parmi les pays les plus pauvres du monde et se situe au 176e rang sur 187 pays dans l'indice de développement humain.
RDC toujours, conférence de presse du ministre congolais de la Justice jeudi à Kinshasa. Alexis Tambwe Mwamba y a déclaré que l'opposant congolais Moïse Katumbi est un fugitif sous le coup de mandat d'arrêt international qui n'a jamais voulu rentrer dans son pays où la police est prête à l'arrêter. Allié plus adversaire du président Joseph Kabila, M. Katumbi répète qu'il a été empêché d'entrer par la Zambie les 3 et 4 août pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Mais le ministre de la Justice dément ces allégations. Alexis Tambwe Mwamba a souligné que Kinshasa aurait laissé Moïse Katumbi rentrer au pays pour avoir la possibilité de l'arrêter. L'ex-gouverneur y est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires renvoyés au 10 octobre par la Cour suprême congolaise. En son absence de la RDC, il a également été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière contre laquelle il a fait appel. Afrique du Nord maintenant, en Libye, 45 miliciens ont été condamnés à mort mercredi par la cour d'appel de Tripoli. Ils étaient accusés d'avoir tué des manifestants à Tripoli pendant la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Précision d'Irénée Herman Ongo.
124 personnes toutes en détention ont été jugées. 45 d'entre elles ont été condamnées à mort par fusillade. 54 à 5 ans de prison et 22 ont été acquittés par la cour d'appel de Tripoli. L'affaire remonte au 21 août 2011, date du début de la libération de la capitale libyenne du régime Kadhafi, 6 mois après le déclenchement d'une révolte populaire. Des miliciens pro-Kadhafi avaient alors ouvert le feu et tué des dizaines de manifestants près du quartier d'Abou Slim. Muammar Kadhafi a été capturé et tué par des miliciens de Misrata en octobre 2011, près de sa ville natale de Sirte. Depuis la mort du guide libyen, le pays a sombré dans le chaos avec deux autorités rivales, l'une basée à Tripoli et l'autre à Benghazi.
Et pour terminer, relations États-Unis-Chine en pleine guerre commerciale, Pékin et Washington vont relancer leurs négociations pour un mois depuis plusieurs semaines. La Chine enverra un haut responsable aux États-Unis d'ici la fin août. Merci de votre attention.